Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale, l'élection législative 11 et 18 juin 2017. Le 11 juin s'est passé. Le premier tour, c'était il y a quelques jours. Les résultats sont tombés. Avec en première position Marjolaine Meynier-Millefer qui arrive devant Monsieur Alain Breuil. Donc Marjolaine Meynier-Millefer représente La République En Marche d'Emmanuel Macron, Monsieur Alain Breuil, le Front National. Et ils nous ont fait l'honneur aujourd'hui de venir débattre avant ce second tour du 18 juin à Couleur FM. Merci à tous les deux d'être là.
Merci à vous et bonjour à tous.
Bonjour. Et voilà, donc le premier tour terminé. La République En Marche, une vague, certains parlent de tsunami, quelque chose en tout cas qu'on n'a encore jamais rencontré dans l'histoire de la 5e République. Marjolaine Meynier-Millefer, vous avez peut-être une première réaction à...
Ben oui, effectivement, c'est un enthousiasme impressionnant qu'on vit sur les territoires pour le projet d'Emmanuel Macron. Je pense que ça tient beaucoup au fait que Emmanuel Macron a mis les citoyens au cœur de son projet. Et je crois que c'est ça que les citoyens reconnaissent, en fait. C'est le fait qu'à nouveau, ils sont aux manettes du débat démocratique. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont effectivement enthousiastes. Et qu'ils adhèrent massivement. Ils savent qu'aujourd'hui, ils ont leur voix et leur place dans le processus démocratique.
Vous le pensez vraiment ?
Je le pense absolument.
Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que lorsque M. Macron a bradé la branche hydraulique d'Alstom aux Américains, par exemple, ou lorsqu'il a revendu des parts de l'aéroport de Toulouse aux Chinois, j'ai pas eu le sentiment que les Français étaient concernés.
Il n'était pas aux manettes à ce
moment-là,
monsieur.
Oh, oh. Il était au ministère de l'économie, il était secrétaire d'État adjoint, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y était pas.
Je vais intervenir dès tout de suite, parce que alors, nous sommes à la radio, et les auditeurs qui nous écoutent, quand vous parlez tous les deux en même temps, ils ont beaucoup de mal à comprendre. D'accord. Alors si chacun son temps de parole, ça peut être sympathique. Je vous laisse reprendre.
Oui, donc je disais, effectivement, les citoyens sont tout à fait au cœur du projet démocratique d'Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'on a construit l'ensemble du projet d'En Marche. Il faut savoir que ça a commencé à l'été dernier avec une grande marche qui a été organisée auprès des populations pour qu'ils puissent dire quels étaient les projets qu'ils avaient, quelles étaient les envies qu'ils avaient, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans le pays, ce qu'ils voulaient voir changer. Ensuite, on a animé un grand nombre d'ateliers quand on nous disait à l'époque, mais enfin, Emmanuel Macron n'a pas de projet, n'a pas de programme. En fait, on était en train de le co-construire avec les citoyens et avec les adhérents. C'était ces réunions qui avaient lieu, thématique par thématique. Les experts nous proposaient des solutions et ensuite, nous, on les débattait et on disait ce qu'on en pensait et on faisait remonter le retour. Donc, le projet, il a été construit complètement comme ça depuis le départ et je pense que c'est ça, comme je vous disais, que les citoyens reconnaissent.
Monsieur Breuil, que la motivation des électeurs, finalement, en votant Emmanuel Macron, c'est quand même un petit peu le changement. La motivation des électeurs quand ils votent le Front National, c'est le changement aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on ne peut pas refuser ce chose-là, Monsieur Macron. Il a renversé la table, il a renversé la fourmilière des Républicains et des Socialistes. C'est un fait. On ne va pas dire le contraire. Quant aux électeurs du Front National, eux aussi, ils veulent un certain changement, mais il y a malheureusement une différence absolument fondamentale. Le débat va peut-être nous permettre d'aller un peu plus dans le détail. C'est qu'effectivement, les électeurs de M. Macron veulent une France totalement dissoute dans l'Europe. Et nous, on pense que la France peut rester la France en conservant la liberté de ses frontières, de ses produits, de sa monnaie, etc. Est-ce que vous savez, par exemple, aujourd'hui, que la Corée du Sud, 50 millions d'habitants, exporte plus que la France, 67 millions d'habitants? C'est juste une question économique, mais c'est une question fondamentale qui n'a malheureusement pas fait la une des journaux. Et j'aurais bien aimé qu'on s'interroge un peu plus sur cette chose-là.
Alors justement, vous venez sans doute de résumer la différence vraiment fondamentale qu'il peut y avoir entre vos deux courants de pensée. C'est d'un côté une ouverture sur le monde avec une vraie confiance à cette mondialisation du côté de La République En Marche. De l'autre côté, peut-être un sentiment de nécessité de plus se fermer, de se protéger dans ses frontières. Je vous laisse l'un ou l'autre réagir.
Oui, moi, c'est effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, c'est les gens réagissent, que ce soit par En Marche ou par le Front National, à un constat qui est celui d'une impuissance depuis un certain nombre d'années, et avec ça, donc, grandit une certaine frustration. La grande différence, par contre, je trouve qu'il y a entre le Front National et En Marche, c'est qu'en fait, le Front National ne propose pas de solution et laisse les gens dans une situation de frustration et d'énergie bloquée, ce qui crée de la peur, ce qui crée une situation d'impuissance et de colère. Donc c'est surtout ça que les gens expriment par le Front National, à mon avis. Et en revanche, En Marche ouvre les choses et permet des solutions, permet aux gens de construire et de sortir de l'impuissance. Et en fait, on leur propose des solutions pour pouvoir construire également leur propre projet personnel. Et je pense que la grande différence, elle est là. Donc certes, le constat de frustration est partagé, mais les solutions apportées ne sont pas du tout les mêmes.
Monsieur Bray.
Vous avez raison en une chose. Effectivement, le constat est partagé, mais les solutions ne sont pas les mêmes. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous prononcez les mots du vocabulaire politique avec une maîtrise exceptionnelle déjà, je dois le dire. Moi, malheureusement, je dois vous dire qu'au Front National, on a prévu un certain nombre de mesures précises, chiffrées, comme par exemple la remise en place de droits de douane. Ça va vous paraître monstrueux de mettre en place des droits de douane. Est-ce que vous savez, par exemple, le taux de droits de douane qu'appliquent les États-Unis sur les importations d'acier inoxydable chinois? Alors, je vais vous le dire, hein, c'est 200%. Est-ce que vous savez le taux de droits de douane qu'applique la Suisse? Ce sont quand même nos proches voisins, ce ne sont pas des gens pauvres, ce sont des gens démocrates, sur les produits agroalimentaires pour maintenir leur industrie agroalimentaire. C'est 50%. Donc, nous, on part du principe que cette vague mondialisation qui se prépare aujourd'hui est une machine à perdre. On va perdre tout ce que nous avons. On a parlé de Wilvord tout récemment. On a parlé de Whirlpool tout récemment. Vous voyez à peu près où ça nous amène, ces délocalisations à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour empêcher cela? Nous, on propose, au contraire, de taxer les produits de Whirlpool quand ils reviendront fabriqués de Pologne. Ils seront fabriqués par des gens qui sont payés à 300 ou 400 euros. Oui, on fera une taxe de 30%. Qu'allez-vous faire, vous, à part effectivement des jolis mots qui sont très agréables à entendre? On aimerait que le monde fonctionne comme vous le souhaitez.
C'est marrant que vous me disiez que je suis déjà très aguerri en politique. Ça fait combien d'années que vous êtes en politique, élu
J'ai été élu à la région en 1992, je ne m'en cache absolument pas.
En 1992, c'était votre premier mandat?
C'était mon premier mandat. J'ai travaillé 92. Plus de 30 ans dans l'industrie en Rhône-Alpes, donc je sais de quoi je parle.
Donc c'est ce que je dis. Donc du coup, le discours rodé politique, il est plus de votre côté. Moi, ça fait qu'un an et demi que je suis engagée en politique. Avant ça, j'étais une citoyenne comme les autres, engagés dans mon métier, celui d'enseignante, puis celui de chef d'entreprise, et effectivement également engagé auprès d'associations. Donc le discours rodé politique, je pense qu'on peut vous le renvoyer. La question de l'Europe, savoir, je pense qu'on a effectivement une lecture qui est complètement différente des opportunités de l'Europe. Pour eux, l'Europe, c'est le croque-mitaine qui va venir manger les petits Français. Moi, j'ai confiance en la France et en sa capacité à créer énormément de valeur. Aujourd'hui, les Français, dans toutes les équipes internationales, on souhaite avoir des Français dans les équipes. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est extrêmement performants. Et je pense que justement, il faut pas avoir peur du monde. Il faut pas avoir peur, c'est pas le croque-mitaine qui va venir nous manger. On est très fort et on est très capable de se défendre sur le niveau international. Et je pense par contre qu'il faut le faire à l'échelle européenne. Je pense que le faire à l'échelle française, c'est une erreur. Et honnêtement, je pense que beaucoup d'économistes l'ont compris.
Mais je partage pas du tout votre avis. J'ai la chance d'avoir quelques années de plus que vous et un petit peu plus d'expérience que vous. Bon, c'est une question d'âge, hein. Je ne vais pas en tirer une gloire, bien au contraire. Je me rappelle quand j'étais étudiant, adolescent, dans les années 75-76, le Boston Consulting Group pensait que la France allait doubler l'Allemagne au plan économique. Les choses se passaient encore très bien. Est-ce que vous avez fait à peu près la place de la France aujourd'hui dans le classement mondial des exportateurs?
Eh bien justement, je pense qu'il y a une révolution notamment numérique et d'innovation à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut renforcer la recherche, il faut renforcer l'innovation et il faut renforcer l'entreprise française, mais en l'ouvrant la fermant sur elle-même. Enfin, je ne sais pas où vous avez vu qu'une entreprise qui se replie sur elle-même, elle vit. Si on regarde à une échelle beaucoup plus locale, moi je suis spécialisée plutôt dans les TPE-PME et beaucoup moins effectivement dans les grands groupes que vous avez l'air de dénoncer, mais en l'occurrence c'est 90 ou plus des entreprises, c'est des TPE-PME, et aujourd'hui ces entreprises, si elles ne travaillent pas en réseau, si elles ne travaillent pas les unes avec les autres, elles se replient sur elles-mêmes, elles meurent. Ça, c'est la réalité économique des entreprises.
Alors justement, je vais en profiter pour faire une transition, une transition vraiment très légère, pour essayer de nous reconcentrer sur nos territoires, les territoires de la 10e circonscription, mais pas seulement, c'est aussi tous les territoires en France. Comment on fait, j'aimerais beaucoup avoir votre vision à chacun, chacune, pour savoir comment on fait pour redynamiser toute cette énergie qui se trouve dans nos territoires, toutes ces personnes, tous ces acteurs qui ont envie de faire, qui ont envie de travailler aussi, et voilà, comment on fait pour libérer un petit peu ces liens territoriaux, ces énergies?
Moi, je partage le constat. On a énormément d'énergie positive sur nos territoires. C'est effectivement ce qu'on voit de partout quand on se promène sur la 10e circonscription, ce que M. Breuil n'a peut-être pas fait beaucoup. Mais effectivement, il y a énormément d'énergie positive, des gens qui ont envie de construire des projets. Et aujourd'hui, ils attendent des politiques qu'on les accompagne, beaucoup plus qu'on les freine et qu'on les bloque.
Il ne s'agit pas de freiner ou de bloquer les entreprises. On est tout à fait d'accord avec vous. Il faut dynamiser le territoire. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il faut dynamiser la recherche. Il faut dynamiser l'intelligence. Il faut casser les blocages quand il y en a.
Là-dessus, on est tout à fait d'accord.
Ben oui, je réponds pour vous dire que ces choses-là, on est capable de les dire aussi. Maintenant, je vous repose la question. Notre rang mondial sur les exportateurs, on est entre la 7e et 8e place. Voilà le résultat de 30 ans de votre politique.
Et moi, je vais vous parler un peu plus de la circonscription parce que vous voulez la représenter.
Vous vous trompez. Le rôle du député, je l'ai dit déjà plus d'une fois, la Constitution nous l'impose, c'est de voter les lois, de voter le budget et de contrôler le gouvernement et de représenter, je suis d'accord avec vous, les circonscriptions.
Oui,
mais c'est une mission tout à fait secondaire malgré tout.
Ça n'empêche pas que des circonscriptions comme celle-ci, en fait, il y en a beaucoup en France, des circonscriptions qui sont en partie urbaines et en partie rurales, qui mêlent tous ces enjeux. Je pense qu'on en retrouve un peu partout en France, et le travail du député va finalement d'être de trouver des mesures qui sont capables de s'appliquer partout.
Moi, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que je pense que M. Breuil, il faudrait qu'il explique aux personnes qui doivent voter qu'effectivement, leur parole n'a aucune importance, parce qu'en fait, on s'intéresse que à la parole nationale, et en fait, finalement, ils seront noyés dans un discours national, moi, ce qui me paraît pas du tout intéressant.
Je pense au contraire
que le national nourrit le local. Et moi, je pense qu'effectivement, on est des courroies de transmission beaucoup plus que des gens qui doivent se désancrer au niveau local pour atteindre des sphères nationales dans lesquelles on flotterait. Ce que vous, en règle générale, en plus, vous dénoncez régulièrement. Donc, je ne comprends pas du tout comment vous arrivez à justifier ça ici, sur la 10e circonscription.
Eh bien, écoutez, une fois encore, je vous dis ce que j'ai déjà dit. Le député, c'est un élu national. Nous pensons que les choses nationales priment les choses locales. C'est vrai que nous sommes un peu gaullistes. Et oserais-je le dire, nous sommes peut-être un peu colbertistes. Nous pensons que l'économie a une dimension nationale. D'abord, je vous amène à réfléchir à ce qu'était la puissance de la France à l'époque de Louis XIV et de Colbert et de la ramener à la France d'aujourd'hui où tout est désagrégé, où chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin, dans un marasme mondialisé où chacun fait un peu ce qu'il veut comme il veut. On voit le résultat aujourd'hui. Bon, moi, je constate, hein, c'est tout. C'est pas un jugement de valeur, c'est une observation.
Vous avez raison, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un problème de non-connaissance du territoire. C'est pour ça que vous restez systématiquement ancré au niveau national.
Mais je connais le territoire aussi bien que vous, madame. J'ai habité à Valence, j'ai habité à Lyon, et j'ai habité à Grenoble.
Excusez-moi,
mais la dixième circonscription de l'Isère, elle est quand même très proche de ces trois grandes villes. Arrêtez de penser que la dixième circonscription, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Vous savez bien qu'elle a été créée en 2012, elle a été découpée par des ciseaux qu'un Charles Pasqua n'aurait pas osé tenir tellement qu'elle est aberrante au plan de sa géographie, de sa culture, de sa politique. C'est même pas une circonscription, c'est l'autoroute.
Ça, c'est peut-être un point d'accord entre tous les candidats et les élus de cette
Il n'y a pas de problème sur le fait que la circonscription en elle-même n'aurait pas dû être découpée. Honnêtement, très d'accord avec le fait qu'on doit faire réfléchir l'Isère, le Nord-Isère ensemble et l'Isère rhodanienne, elle a ses spécificités encore différentes. Mais le Nord-Isère, que ce soit la 6e et la 10e circonscription, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elles doivent marcher en cohérence, ce qui serait du coup très intéressant d'avoir effectivement une notre députée Sandra Motin sur la 6e parce que ça permettrait des cohérences sur les deux circonscriptions et de travailler ensemble aux forces du territoire. Mais je pense malgré tout qu'un député là certes a travaillé au niveau national, mais il doit vérifier régulièrement que ce niveau national fasse sens au niveau local, parce que c'est parce qu'on est dans le contrôle au niveau local des politiques nationales qu'on est dans le rôle qui est le nôtre. Et ça, je pense que M. Breuil l'oublie.
En tout cas, j'ai entendu
M. Breuil aussi, pardon, dire sur vos ondes d'ailleurs, c'était très intéressant.
Merci d'écouter.
Mais c'est normal. Mais dire qu'effectivement, la 10e circonscription et notamment le Nord-Isère n'avait aucune identité, aucune personnalité. Là encore une fois, je pense qu'il n'a pas rencontré les habitants pour dire ça.
Ma chère collègue, j'ai même travaillé dans le Nord-Isère. Alors c'est vrai que c'est dans la 6e circonscription, on est bien loin de la 10e. D'accord avec vous.
C'est de l'autre côté de la frontière.
Vous vous rendez compte, j'ai même visité, par exemple, Super Phoenix. Vous vous rendez compte, c'est vachement loin de chez nous. Non, il faut arrêter de penser la France comme un découpage de circonscriptions.
La France est une unité nationale.
Nous avons cette chance d'être un État-nation, ce que beaucoup de gens nous envient aujourd'hui,
mais
d'ailleurs.
Mais les gens, ils reprochent aux politiques de planer dans des sphères qui n'ont rien à voir avec le local. Et aujourd'hui, ça pose problème. C'est justement ce qu'on reproche aux politiques, d'être complètement désancrés. Et je ne comprends pas, honnêtement, vous êtes un élu grenoblois, je ne sais pas ce que vous venez faire sur la 10e circonscription.
Et comme je l'ai déjà dit, si demain je devais aller dans les Landes de Gascogne, j'irais dans les Landes de Gascogne. Je suis un citoyen français. Vous voyez, j'ai peut-être un petit quelque chose en commun. Un opportuniste. Voyons, ma chère collègue. Vous avez été élu au Conseil régional sous l'étiquette Monsieur Kéran, et vous allez bientôt faire appliquer la politique de Monsieur Bruno Le Maire, je crois, qui est UMP.
Alors,
et quelques autres.
Attendez,
si c'est pas de l'opportunisme, vous allez m'expliquer. Alors, c'est une sorte de gloubi-boulga politique qui va faire rire beaucoup de gens, mais expliquez-nous comment vous allez concilier tout cela.
Marjolaine Meignet-Millefer pour l'explication, justement.
Je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet-là, parce que je suis en grande cohérence avec mes idées. Moi, ça y a aucun problème. L'idée, c'est qu'effectivement, moi, j'étais, comme je vous l'ai expliqué, surtout une personne de la société civile qui était très engagée sur le territoire. Et quand on m'a proposé de faire partie d'une liste régionale pour continuer à travailler pour le territoire, je me suis engagée. Et je leur ai dit que par contre, je ne croyais pas aux partis politiques tels qu'ils existaient et que je ne comptais pas m'encarter. Je n'avais jamais été encartée et je le maintiens et je le revendique. Ensuite, effectivement, mon intérêt, c'était de travailler avec les gens. Si M. Wauquiez était venu me chercher au titre du centre droit, je lui aurais dit exactement la même chose. Je suis d'accord pour travailler avec les territoires, avec les élus, pour faire avancer les choses. En l'occurrence, c'est exactement la dynamique qu'on retrouve à En Marche. Aujourd'hui, vous avez des gens de droite, de gauche, qui sont d'accord pour travailler ensemble pour les territoires. Ce que j'ai toujours défendu, donc pour moi, c'est parfaitement cohérent.
Eh ben, impeccable.
Alors, pour essayer de trouver un juste milieu entre le local, le national, etc., on va essayer de trouver des enjeux locaux qui sont des enjeux nationaux, finalement, parce que les enjeux nationaux se retrouvent toujours dans notre vie quotidienne. Alors, on disait tout à l'heure que le territoire, c'est un territoire qui est à la fois urbain, dans cette conurbation avec Lyon d'un côté, Chambéry, Grenoble, etc., et de l'autre côté, beaucoup de rural aussi. Alors, peut-être en commençant par le rural, est-ce que vous pouvez expliquer vos visions, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour nos territoires ruraux? Est-ce que on a entendu dernièrement à droite, je crois, l'idée de 1 euro pour la politique de la ville, 1 euro pour les territoires ruraux, qui montre bien qu'il y a des besoins comme ça qui sont similaires? Qu'est-ce que j'aimerais avoir votre vision à l'un et à l'autre?
Mais écoutez, on a appris ce matin que les producteurs laitiers, alors c'est vrai que notre circonscription n'est pas une très grosse productrice de lait, mais enfin il y a quand même des gens qui font du lait dans notre circonscription, demandaient aujourd'hui un prix du lait à 35 centimes d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le marché faire le prix? Est-ce qu'on intervient sur ce marché? Ou est-ce qu'on laisse la grande distribution dire, puisque vous ne voulez pas payer 35 centimes, on va aller prendre du lait quelque part en Hollande ou en Allemagne, où on a des fermes de 10 000, 20 000, 30 000 vaches. Il y a même une ferme en Allemagne, il y a 30 000 vaches. Qu'est-ce qu'on fait?
On est loin de la circonscription.
C'est la question. Mais si on est en plein dans la circonscription,
alors,
si vous devez payer...
Une ferme en Allemagne qui a 30 000 vaches, on est en plein dans la circonscription? Parce que ça n'a rien à voir avec
l'agriculture. Je vous pose la question, je viens de prendre l'information qu'on vient d'apprendre ce matin, 35 centimes. Le prix raisonnable du lait en France.
Est-ce que ça veut dire du coup que dans les campagnes françaises, on a entendu parler d'une ferme de 1000 vaches, mais effectivement loin d'ici, mais est-ce que ça veut dire que dans les campagnes françaises, y compris autour d'ici, on peut voir apparaître, et on doit voir apparaître des gros outils de production comme ça?
Pour nous, non. Si on veut conserver une agriculture locale, enracinée, qui respecte les paysages, qui respecte l'environnement, on doit conserver ce modèle français qui fait un peu l'admiration de tous. Combien fait-on de fromage en Allemagne ou en Angleterre? 3 ou 4? On en fait 300 ou 350 en France. Mais tout est résumé. Vous m'en pouvez m'en citer 10?
En Hollande? Oui. Alors, il y a déjà 30 sortes de Edam.
Oui.
Et de Munster.
Et l'Erdamer, non, le Munster, c'est français.
Après, vous avez tous les Raoulas.
Les Mimolettes et quelques autres.
Voilà.
Et on en fait quelques-uns, mais ce n'est pas
fromage.
Comparable.
Enfin, faut arrêter
ce
avec...
n'est pas comparable, mes chers collègues.
Ce n'est pas comparable, vous n'êtes pas allé en Hollande.
Si, un grand nombre de fois.
Bref, pour revenir à ces sujets-là...
En tout cas, une agriculture qui respecte les spécificités...
Et ça, cette agriculture coûte plus cher. Donc, par conséquent, il faut la protéger. Faire exactement comme les Suisses. On laisse rentrer ce qui est bon, et ce qui est trop nuisible, on les taxe à l'entrée. Encore une fois, la Suisse taxe à 50% certains produits agricoles pour conserver une agriculture à la dimension de la Suisse. Les Suisses n'accepteront jamais d'avoir des fermes de 20 000 vaches ou de 10 000 vaches. Ils veulent des fermes à taille humaine. Et bien ça a un coût, ça se paye. Donc nous, on pense qu'il faut d'abord taxer les produits à l'importation qui ne respectent pas les règles du jeu. Alors évidemment, on peut penser comme Mme Millefer et dire qu'il faut ouvrir les frontières, ouvrons les frontières, mais vous allez voir la catastrophe. On y est déjà d'ailleurs, vous pouvez la constater par vous-même.
On parle d'agriculture locale et vous êtes en train de nous dire les frontières, l'Allemagne, c'est pas du tout l'économie française au niveau agricole, c'est pas du tout ce qui est développé ici. En tout cas, c'est très clair. On a effectivement des structures agricoles qui ont besoin de se moderniser. Pour ça, Emmanuel Macron a un projet qui est très clair. C'est 5 milliards d'investissements pour l'agriculture pour permettre la transition des entreprises agricoles aujourd'hui. Donc, il y a un plan d'investissement qui est très clair à ce niveau-là. Par ailleurs, sur les territoires, il y a un enjeu qui est très important. Et ça, c'est l'aménagement du territoire qui nous le dit, parce que du coup, on va revenir au sujet. On a besoin, effectivement, de circuits plus courts. Sur l'agriculture. C'est le souhait qui est partagé par les citoyens. Donc là-dessus, c'est encouragé. L'objectif, c'est d'aller vers 2020 à 50% des produits qui sont consommés dans les écoles et dans les collectivités qui soient locales, soit bio, soit les deux. Donc l'objectif, il est effectivement de renforcer ces circuits courts. Mais ça, on le voit par exemple dans notre secteur, dans notre 10e circonscription. On a la problématique d'avoir des terrains agricoles qui sont aujourd'hui en concurrence avec le foncier économique, où on a effectivement des zones, par exemple, logistiques qui s'étendent et des terrains agricoles qui ont du mal à exister à côté ou qui ont du mal à descendre ça. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a bien un équilibre territorial à atteindre. Si on veut des circuits courts qui soient encouragés, il faut aussi qu'on ait la place d'avoir des terrains agricoles qui se développent et qui sont eux aussi performants et efficaces, qui sont certes des performants, parce que c'est ça l'objectif, et qui trouvent leur preneur autour de chez eux. C'est ce qui est aujourd'hui majoritairement soutenu par la France de partout. Enfin,
je vais encore quitter la 10e circonscription. J'espère que vous m'en pardonnerez par avance de quitter la 10e circonscription, mais vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que
vous y ferez un passage très bref. Donc
vous y êtes très enraciné, mais ça n'a aucune importance, mes chers collègues. Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir un restaurant, entre autres, en Saône-et-Loire. C'est loin, c'est même pas la même région. Est-ce que j'oserais encore parler de cette chose-là? Eh bien, dans le pré en face de chez moi, il y a des belles charolaises. Et quand vous achetez à la boucherie du coin des entrecôtes de ces belles charolaises, ça coûte à peu près 20 euros minimum. Et si je vais dans une grande surface spécialisée pour la restauration alimentaire, je vais trouver des entrecôtes allemandes entre 10 et 15 euros. Qu'est-ce que je fais pour développer le circuit court? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que je fais tout en maintenant la rentabilité de mon établissement?
Aujourd'hui, on voit la mutation des pratiques de consommation. Et moi, je pense que là, par contre, vous avez une clé. C'est les consommateurs, c'est les citoyens, encore une fois, qui ont les clés qui sont celles de l'économie. La manière dont on veut consommer impacte l'économie. L'économie, les entreprises, elles ne font que s'adapter à la demande qui est la leur. Le marché, il est très, très pragmatique. Hein. C'est ce qui se vend, c'est ce qui s'achète. Donc là-dessus, les citoyens... s'il faut ni les montrer du doigt en leur disant mais comment vous n'achetez pas effectivement les produits très chers quand vous avez une bourse qui est vide, c'est compliqué effectivement d'acheter les produits bio et locaux qui sont pour l'instant encore assez chers. C'est en train d'évoluer parce qu'on a des systèmes qui s'organisent, encore une fois grâce aux citoyens, les AMAP par exemple, les AMAP où vous avez des associations de consommateurs qui se mettent en regard avec des maraîchers pour justement permettre que la production de produits qui soient faites localement puisse trouver un acheteur tout autour d'eux. Et ça, c'est les citoyens, encore une fois, qui s'organisent. Je pense que c'est justement ce qui est intéressant dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est de remettre la puissance citoyenne au cœur de ces débats économiques. Quand on a une entreprise qui ne joue pas le jeu de la parité ou qui ne joue pas le jeu du recrutement sans discrimination, ils vont être indexés comme ne jouant pas le jeu. Et c'est les citoyens qui boycotteront ces entreprises si elles ne jouent pas le jeu. Et là, aujourd'hui, ce qui est le plus important, et c'est ce que disait Ford, dans une entreprise, ça n'apparaît pas à son bilan, ce sont ses hommes et c'est sa réputation. Donc la réputation des entreprises, si on montre qu'effectivement elles ne jouent pas le jeu, ce sont les consommateurs qui les sanctionneront, ce seront les citoyens. Et ça, je pense que les citoyens, ils sont clés dans tout ce qui est économique. Il ne faut pas mettre l'économie contre les citoyens en disant que l'économie, la grande méchante qui va manger les petits. Mais c'est les petits qui font toute l'économie parce qu'ils sont consommateurs.
C'est vrai en théorie, je suis d'accord avec vous, c'est vrai en théorie, mais en pratique, comment vous faites dans une commune où il y a 20-25% de chômage, parce que malheureusement, les boîtes textiles, les boîtes mécaniques ont toutes délocalisées,
vous devriez aller visiter l'entreprise Ferrari
l'entreprise Ferrari avec des métiers à fil d'air, je les ai vus probablement avant vous, ma chère collègue. J'ai travaillé 30 ans dans la maintenance industrielle. Je vous donne un exemple de là où j'ai mon restaurant.
Je vous parle de la 10e circonscription où parmi nos économies de pointe, on a justement le textile technique.
Il y a évidemment du textile technique. Et puis il y a aussi Porcher, on est bien d'accord. Il y a 2-3 boîtes extrêmement performantes, mais il faut voir tout ce qui a été.
Elles sont reconnues internationalement.
2-3 boîtes, oui. Ben, mettons 4 si vous le souhaitez. Mais ça n'a aucune importance. Je vous dis comment vous faites dans un territoire où il y a 20-25% de chômage parce que toute l'industrie est partie en Tunisie, au Maroc ou que sais-je, et où les gens n'ont plus d'argent pour pouvoir s'offrir des entrecôtes à 20 euros le kilo. Et on est obligé de tenir compte de ces choses-là. Je suis chef d'entreprise.
Vous êtes sur un
discours. Je suis chef d'entreprise, moi aussi. Je sais ce que c'est que la rentabilité d'une entreprise. Et il y a un moment donné, je suis bien obligé de mettre en relation le prix auquel je peux vendre avec lequel au prix auquel je peux acheter. C'est une base de l'économie. Vous le savez comme moi. Alors, effectivement, que les belles idées au niveau d'une campagne politique, ça puisse attirer des gens, j'en conviens. Mais encore une fois, arrêtez de me traiter de parachuté. Je ne fais pas de parachutisme, je ne suis pas sportif. Et j'ai passé toute ma carrière industrielle dans un triangle entre Valence, Lyon et Grenoble. Alors, excusez-moi, la 10e de l'Isère, comme la 6e, comme la 3e, comme la 4e, je les connais relativement bien.
Oui, mais malheureusement, vous avez un discours qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous prenez des grands sujets qui sont sans faits. Parce que moi, ce que je fais, c'est justement me baser sur les faits, parce que je pense qu'il faut sortir des débats politiques complètement fumeux dans lesquels
je
me base très concrètement sur le territoire, en disant qu'est-ce qui se passe chez vous, comment ça marche pour vous, expliquez-moi l'entreprise, comment elle fonctionne, pourquoi elle aurait besoin ou pas de délocaliser si c'était le cas, et il n'y en a pas hein, pour l'instant. Pas vers chez nous.
Ah,
et encore une fois, et non, il faut continuer à travailler.
Soprano, vous en avez entendu parler ?
Oui. Écoutez, d'accord. On va travailler sur les sujets qui sont aussi intéressants. C'est qu'on a des forces positives sur ces territoires qui sont des atouts et qu'aujourd'hui, vous négligez complètement.
Je ne néglige pas les atouts que nous avons. Je constate malheureusement la perdition de notre circonscription, comme de notre département, comme de notre région, comme de notre pays.
On est en pleine croissance démographique. On n'est pas en permission. Au niveau France, on est parmi les secteurs les plus dynamiques économiquement. On n'est pas du tout en perdition. On est au contraire, on est des moteurs. On est des moteurs.
Alors, excusez-moi, je ne veux pas faire le conciliateur, mais je vois finalement deux visions quasi complémentaires. Qu'il y ait eu des délocalisations ici ou ailleurs, mais ça ne fait aucun doute. Des délocalisations, ça a fait partie des processus économiques des dernières années. Par contre, qu'il y ait un dynamisme dans les territoires qui soit à soutenir, c'est certainement là l'enjeu politique essentiel. C'est comment on fait pour soutenir ces envies des citoyens de reconstruire leur économie autrement, peut-être, oui.
Mais il y a une mutation de toute l'économie qui a eu lieu depuis le fait qu'on a été dans la production de masse. On est en train de changer complètement de modèle économique. On était dans une production de masse où il fallait que chacun ait le même objet chez soi. Et ensuite, ce même objet, il fallait qu'il soit obsolète rapidement pour qu'on puisse le remplacer. Et c'était là-dessus qu'étaient basées toutes nos économies. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces modèles-là. On est en transition sur de la production de l'objet unique et sur mesure. Donc on est en train de travailler sur des rapports à la valeur qui sont complètement différents. À l'époque, c'est pareil. Enfin, c'est là-dessus qu'était basée l'économie, justement, du coup, le plus bas. Parce qu'effectivement, quand on est sur un objet qui doit être identique pour tous et où la différenciation, elle se fait que sur le prix, ben, effectivement, on casse les prix et on délocalise. Aujourd'hui, la mutation de l'entreprise, elle se fait par, justement, l'unique et le savoir-faire. Et ça ne se délocalise pas de la même façon. Donc c'est très clair, on est en train d'accompagner ça. Donc oui, certes, le monde que dénonce Monsieur Breuil est en train de s'achever, et je pense que très clairement, on est en train de voir une mutation économique, et c'est cette mutation qu'on doit soutenir en soutenant les investissements au niveau numérique énormément, parce que les entreprises qui ne font pas leur transition numérique, elles sont en grand danger, ça c'est vrai, donc il faut l'accompagner, parce qu'elles ne sont pas compétitives, et voilà, et continuer à former les gens, parce qu'on est dans un monde qui bouge très vite, et dans lequel les métiers deviennent obsolètes rapidement également. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, sur lesquels les lois n'arrivent pas à suivre tellement ils vont vite, donc effectivement il faut un petit peu plus de souplesse pour permettre que ces nouveaux métiers puissent se faire, et en revanche, moi je pense qu'il faut absolument protéger les gens, et je dis bien protéger les gens et pas les emplois, parce que c'est les gens qui font les métiers qui sont importants, et pas les métiers en eux-mêmes, qui eux peuvent évoluer. Et je pense que du coup, c'est vraiment ça le cœur du projet d'Emmanuel Macron, c'est de remettre la formation tout au long de la vie au cœur de sa politique.
Monsieur Breuil, vous êtes d'accord avec tout ça ?
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'on ne vit même pas dans le même monde. Vous connaissez quand même le concept d'obsolescence programmée, avec par exemple nos fameux téléphones portables qui tous les 6 mois ne sont même plus à jour. Alors, vous voyez, moi j'ai un vieux truc à clapet. Je suis vraiment du siècle précédent. J'ai vécu dans un monde où on n'avait pas ça. Ça fonctionnait aussi très bien. Il faut arrêter de dire que le numérique, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il faut s'adapter. C'est évident. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans la maintenance industrielle, et dans mes premiers métiers, je mettais des des robots informatiques dans les chaînes de production. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. C'est pas quelque chose qu'on m'a expliqué dans des cours chez Emmanuel Macron ou chez Marine Le Pen d'ailleurs. Je l'ai vécu de mes propres mains. J'ai installé des robots de mise en peinture, j'en ai installé, à Saint-Marcellin. Je vous demande très humblement pardon, ce n'est pas sur la circonscription. J'ai installé des machines automatiques sur Lyon. Excusez-moi, c'est pas des circonscriptions. Je connais parfaitement ces choses-là. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas duper les gens en leur disant que tout va être résolu par des problèmes de formation permanente. On connaît, ma chère collègue, au Conseil régional, l'opinion de M. Wauquiez d'ailleurs sur ce sujet-là. Il y en a plus qu'assez de ces formations permanentes qui vous coûtent 1 000 ou 1 500 euros, au bout duquel vous n'apprenez strictement rien, vous planquez simplement quelques chômeurs. Je crois qu'il faut vraiment autre chose. Et vous qui êtes enseignante, je crois, initialement, vous étiez professeur d'anglais, vous savez très bien qu'on apprend bien à 10, 15, 20 ans, mais quand on commence à avoir 40 ou 50 ans, on n'a plus du tout la même souplesse intellectuelle. Je le déplore. Montrez-moi que j'ai tort, hein. Je demande qu'à apprendre. Mais malheureusement, on apprend beaucoup moins bien à 50 ans qu'on apprend à 15 ans. C'est une évidence.
Non, c'est absolument pas une évidence. C'est quelque chose qui s'entraîne tout au long de la vie. Et
il
c'est
faut
pas
s'entraîner.
Une évidence.
Je
et effectivement, d'accord. Par contre, là où il y a rupture et fracture, c'est qu'effectivement, votre génération, elle n'a pas fait le travail de se former tout au long de la vie parce qu'elle avait un emploi qu'elle devait normalement conserver toute sa vie. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, nos générations, certes, elles sont déjà armées au fait de devoir s'adapter régulièrement. On sait que nous, on va avoir plusieurs emplois dans nos vies. Regardez-moi, j'en suis l'exemple type. J'ai commencé par être enseignante, j'ai fait ça pendant 7 ans, je me suis reconvertie, j'ai monté mon entreprise, et dans 5 ans, je ferai encore autre chose.
Et demain, vous ferez peut-être de l'agriculture, pourquoi pas ?
Non, tout est possible, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est justement de permettre aux gens d'évoluer dans leur métier. Aujourd'hui, vraiment, c'est un concept, effectivement, c'est un vieux monde qui s'oppose à un nouveau monde, très clairement. Et l'objectif, c'est pas de laisser sur le carreau les gens qui sont de votre génération, bien au contraire, c'est de les accompagner. Mais la révolution numérique, c'est aussi un avantage pour eux. La révolution numérique, c'est leur permettre de sortir de l'isolement. C'est leur permettre de pouvoir rester à domicile plus longtemps. C'est pouvoir avoir accès aux soins éventuellement de manière plus réactive. Il y a énormément d'enjeux qui sont tournés vers les seniors également dans le numérique.
Vous avez une version très idéalisée, je crois, de l'économie numérique. Vous pensez que l'économie numérique, ça va vous faire à manger, ça va vous ranger vos linges, ça va nettoyer votre maison. Il faut bien sûr cette économie numérique. On est bien d'accord avec vous, mais ça ne fait pas le concret au quotidien. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est obnubilé par cette chose-là, que si on veut avoir l'air intelligent, il faut parler d'économie numérique matin, midi et soir. Certes, je suis plus âgé que vous, je fais partie d'une génération un peu ancienne, j'ai commencé à me dire, mais dis donc papy, tu devrais peut-être aller au sanatorium, mais que voulez-vous ? Il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire avec le numérique. Le numérique, ça ne vous transporte pas de Paris à Lyon, je suis désolé, il faut des trains. Pas encore. Alors là, on sera dans un hyper-monde dans lequel nous serions des esprits purs qui pourrions nous transporter, nous télétransporter, mais là, je pense que ni vous ni moi ne le verrons probablement.
Ah mais ce qui est intéressant, c'est que 50% des métiers de demain n'existent pas encore. De fait, le numérique, il est en train de s'insinuer dans tous les aspects de notre vie. Alors l'objectif, c'est
pour un plus.
Alors c'est un intérêt, c'est une opportunité. L'objectif, c'est d'accompagner parce que justement, il s'insinue dans tous les aspects de notre vie. L'objectif, c'est de voir comment on va pouvoir faire en sorte de protéger les gens dans ces nouvelles règles du jeu. Parce que, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant dans le numérique, c'est que c'est certes partout, on le voit bien, on est sursollicité. La question aujourd'hui de savoir si on a le droit ou pas à la déconnexion, ça c'est un sujet, je pense, qui serait intéressant d'amener au débat. Le monde, on peut regretter qu'il soit en train de changer, mais il est différent, de fait. Donc on peut s'accrocher à un ancien monde en disant, regardez, c'était mieux avant, moi je suis pas certaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a des opportunités et qu'il faut... En fait, l'important, c'est l'humain, encore une fois. Systématiquement, c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. Et c'est de savoir comment les gens vivent dans le monde. Regretter un monde d'une autre époque.
Ah, nous avons là un point d'accord. L'important, c'est l'humain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, vous savez ce que disait Solzhenitsyn à une époque ? Il disait que le premier des droits de l'homme, c'était de ne pas occuper son âme avec des futilités. Et j'ai quand même un petit peu le sentiment aujourd'hui qu'on est en train d'occuper nos âmes avec des futilités. Vous les voyez comme moi, les gens dans le métro, dans le tramway ou dans le train. Vous voyez des gens pianoter tous. Ils ne se regardent même plus. Ils ne se parlent même plus. C'est où l'humain là-dedans ? Ils sont au restaurant. Et Dieu sait que je les vois puisque j'ai un restaurant. Excusez-moi, en Saône-et-Loire. Excusez-moi, à Chauffailles. Mais je les vois tous manger, ils sont quatre à table, ils sont tous en train de pianoter sur leur iPhone intelligent, vous savez, leur téléphone intelligent, leur smartphone.
C'est quelque chose que je partage pour le coup.
Et oui, vous voyez, je vois même aujourd'hui des jeunes, des gosses qui font des Snapchat. Vous voyez, je suis un tout petit peu à la page moi aussi, mais ce sont mes jeunes, ce sont mes apprentis qui m'expliquaient ce que c'était qu'un Snapchat. Ils prennent en Snapchat leur pizza et ils envoient la photo de leur pizza à leurs copains. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment grandir l'humain? On est en train de prendre l'humain pour du matériel. On le fait jouer Panem et Circenses, le pain et le jeu du cirque. Sauf que là, on n'est pas dans la cruauté des jeux du cirque. On est dans la vacuité du monde. Je crois que nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, encore une fois. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends très bien que vous ne soyez pas d'accord. Mais moi, je regarde avec un petit peu plus de recul. Pour tout vous dire, bon, vous le savez pas, j'adore faire de la musique. Je fais du violon, je fais de l'alto. Je n'ai même plus de chaîne stéréo chez moi. Parce que le vrai plaisir pour moi, c'est faire de la musique en amateur, certes, mais avec des vrais humains avec lesquels je parle, avec lesquels je cause, avec lesquels je dis, tiens, pourquoi tu fais ce coup d'archet? Pourquoi tu fais ce doigté? Je suis profondément humain et je ne supporte plus cette musique en boîte, par exemple. Alors vous allez dire que je suis même pas du XXe siècle, je suis peut-être de l'époque de Haydn ou de Mozart, pourquoi pas?
Alors, en l'occurrence, c'est marrant parce
que... Un mot assez court, Marjolaine.
Je vais essayer de faire court. Mais effectivement, pas du tout la même vision du monde. Il y a des opportunités dans le numérique. Il y a des menaces également qu'il faut prendre de manière très pragmatique aussi. Hein, c'est-à-dire de ce droit à la déconnexion, savoir comment le numérique peut faire évoluer nos usages et du coup, comment effectivement ça peut casser certaines choses et du coup accompagner pour pouvoir transformer et reconstruire. Ça, c'est important. Mais alors effectivement, pas du tout d'accord sur cette inquiétude du monde qui bouge. Moi je pense qu'un monde qui bouge, c'est un monde rempli d'opportunités et d'opportunités à saisir et pour tous.
Alors un monde en transition, et ce qui est vraiment passionnant dans votre confrontation, c'est qu'effectivement on a vraiment deux visions sociales de comment on peut appréhender cette transition à vivre et deux propositions politiques qui vont à cet effet. Juste un dernier mot pour revenir au concret de cette semaine, de dimanche qui arrive, l'enjeu commun, c'est l'abstention?
Bien sûr.
L'abstention est effectivement un enjeu. Moi, je constate également que notre pays fonctionne tellement mal que même aujourd'hui, on n'arrive même plus à mettre le bon nombre de professions de foi de bulletin de vote à chaque candidat dans les enveloppes que l'on distribue aux électeurs. On me l'a dit une fois, j'avais du mal à le croire. On me l'a encore redit ce matin sur le marché. Il y a des enveloppes qui sont arrivées à Saint-Clair-de-la-Tour où sur les 14 candidats que nous étions, il n'y avait que 4 bulletins de vote. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça pose un problème majeur de démocratie, ce qui s'ajoute au problème, effectivement, de démotivation des électeurs qui ont le sentiment que tout est déjà fait, que M. Macron aura 450 ou 500, au point où on en est, on peut rêver pour certains de nous députer à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut dire au contraire à nos électeurs que rien n'est encore joué. Ils peuvent encore faire rentrer quelques députés Front National ou voire socialistes ou républicains à l'Assemblée, que M. Macron n'ait pas 500 députés à l'Assemblée nationale. Parce que, à vous entendre, on a l'impression que c'est ce qui va se passer. Ça nous inquiète un petit peu pour quelqu'un qui aime le peuple et la démocratie, qui aime écouter les gens, avoir à ce point-là muselé toutes les oppositions en représentant que 15% des électeurs inscrits, moi ça m'inquiète un petit peu.
On ne muselle pas du tout les oppositions, au contraire, elles sont au cœur d'En Marche, les oppositions. Le débat démocratique, il est au cœur de notre projet. Donc du coup, il aura lieu au sein d'En Marche comme il aurait eu lieu dans le reste, à une autre époque, avec d'autres couleurs politiques. Aujourd'hui, les différentes tendances politiques, elles se retrouvent à En Marche. La seule chose qui se passe, c'est qu'on va sortir des oppositions stériles qui avaient lieu les 20-30 dernières années, où effectivement, on disait, en fait, en off, les gens disaient, moi je suis d'accord avec ce que vous avez proposé, mais comme on n'est pas de la même couleur politique, vous comprendrez bien qu'on ne votera pas pour. Ça, c'est ce qu'En Marche va permettre de sortir. On va avoir effectivement des gens qui sont plutôt de tendance droite, d'autres qui sont plus de tendance gauche, mais qui sont tous d'accord pour travailler ensemble sans opposition stérile. Donc je pense qu'au contraire, le débat démocratique, il n'en sera que plus riche et plus juste. Et pour revenir sur la question des bulletins, je ne suis pas très d'accord avec le fait que vous disiez que la démocratie n'a pas eu lieu, parce qu'au final, tous les bulletins étaient bien devant, dans les mairies, et ils
mais
étaient bien...
Mais pas dans les envois aux électeurs.
Mais vous connaissez beaucoup de gens qui viennent avec le bulletin de chez eux jusqu'à...
Les gens m'ont dit sur le marché que malheureusement, dans les enveloppes qu'ils avaient reçues, il n'y avait même pas un bulletin de vote par candidat.
Et oui, parce qu'en fait, c'est aux candidats de les fournir. Donc peut-être que les candidats n'ont pas réussi à les faire dans les temps, ça c'est possible. Mais en tout cas, la démocratie, elle a bien lieu.
Court, oui.
Voilà. Mais la démocratie avant, a bien eu lieu.
Avant, ça fonctionnait. Avant, ça fonctionnait. Dans ce monde, avant le numérique,
si
ça fonctionnait.
Je peux me permettre, monsieur Breuil ?
Oui, je vous
Merci.
Laisse parler.
Je disais, la démocratie a bien lieu puisque les gens peuvent choisir, ont pu choisir l'ensemble des candidats. Ils étaient bien dans les mairies et ils ont pu choisir les bulletins qui les intéressaient sans être tronqués. Donc il n'y a pas de problème.
Et pour terminer, l'abstention,
un enjeu. Et effectivement, bien sûr, l'abstention, en fait, ce qui est surtout important de savoir dans l'abstention, c'est que, du coup, on n'entend pas 50% des gens. Et les 50% qui restent, du coup, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Et c'est bien ce qu'En Marche va essayer de faire. On va continuer à travailler avec des débats citoyens. On va proposer aux citoyens de s'investir avec nous, de travailler à co-construire les lois. On leur expliquera les projets de loi. Ils pourront donner leur avis, notamment via une plateforme Internet qui s'appelle, oui, encore une opportunité numérique, Parlement et citoyens, qui permet aux citoyens qui le souhaitent de co-construire les lois en donnant leur avis. Et donc d'avoir un retour sur le travail parlementaire. Et effectivement, en local aussi, puisqu'on croit aussi que le tout numérique, ça ne suffit pas, on aura des débats en local avec les comités locaux et qui seront ouverts aux citoyens qui le souhaitent. Donc l'objectif, c'est bien d'entendre les 50% qui aujourd'hui ne se sont pas exprimés.
Les rendez-vous sont donc pris d'un côté et de l'autre. Donc en tout cas, nous, on vous remercie beaucoup, monsieur Alain Breuil, candidat du Front National, donc pour ce 18 juin dans la 10e circonscription de l'Isère, en face de, merci aussi, Marjolaine Meunier-Millefer. Vous vous retrouverez donc dans les urnes dimanche prochain. Et serait sans doute l'un de vos deux députés très bientôt.
Ah ça, c'est obligatoire, c'est un de nous deux, c'est évident.
On vous remercie encore beaucoup d'être venu nous voir à Couleur FM.
Merci.